c'est jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et c'est le moment, Raphaël, de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Vous souhaitez peut-être retrouver une photo, une vieille photo qui est planquée au fond de votre téléphone. Ça n'est pas toujours simple, hein, c'est vrai. Elisabeth, il existe une solution, elle s'appelle Zyl.
Oui, Zyl, c'est Z-Y-L. Oui, parce qu'on a tous des milliers de photos sur son smartphone et ça peut vite devenir très, très pénible de rechercher une photo qui date, tiens, du 7 octobre 2015, par exemple. Alors, pour retrouver plus rapidement ses souvenirs, Zyl a lancé une application qui fait émerger une photo par jour avec ses proches. Bonjour Mathieu Spiri.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Zyl. Alors vous, je crois que tout a démarré au moment de votre mariage.
Exactement. En fait, on s'est rendu compte, donc en 2012, hein, ça date maintenant, qu'il y avait un vrai problème à récupérer les photos prises par ses proches. Et de façon générale, partager ces photos en toute sécurité. Et bon, on va avancer un petit peu de 2012 à maintenant, puisqu'en fait, il y a beaucoup de constats qu'on a fait depuis maintenant 7 ans, en discutant avec beaucoup d'utilisateurs et en parlant avec des ethnologues. Concrètement, ce qu'on a découvert, c'est qu'on ne partage plus que 1% de nos photos sur les réseaux sociaux.
Alors que faire des 99% restantes ?
Et ben justement, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'en fait pas grand-chose, alors que ces photos, ce qu'on peut dire, sans aucun doute et aucun risque, c'est, on peut dire que ces photos, elles cachent nos meilleurs souvenirs et donc notre bonheur. Et finalement, ce que nous, on s'est dit, c'est eh bien, si on pouvait apporter un petit peu de bonheur à travers ces souvenirs.
Vous êtes le rappel du bonheur.
On est
quotidien.
Le rappel du bonheur. Et donc, l'anecdote, justement, par rapport au nom Zyl, Z-Y-L, c'est Zest Your Life. Pourquoi ? Donc, c'est de l'anglais, excusez-moi. Je sais qu'on est en France, en plus, c'est la France bouge, mais on est obligé de faire de l'anglicisme. Parce que finalement, on est ce petit zeste dans votre quotidien qui vient vous rappeler que vous avez vécu des moments vachement forts avec vos amis, avec votre famille, vos proches. Et que, eh bien, ces moments, vous voulez déjà les revoir et pourquoi pas les repartager une fois que le temps est passé. Parce que finalement, quel meilleur moyen que de renouer avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 6 mois, 3 mois, 2 ans, que de lui envoyer une photo pour lui montrer que vous pensez à elle.
Mais pardon, mais moi, sur mon téléphone, parfois j'ai un rappel il y a 3 ans et on a une photo qui apparaît.
Alors,
donc, qu'est-ce qui vous distingue
vous parlez des téléphones Apple peut-être.
Oui, des
ou même
iPhones,
Google.
Bien sûr. Oui.
Alors en fait, nous, ce qui nous distingue, c'est qu'on fait un produit entier à base du souvenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces applications que vous utilisez, les applications photos natives sur les téléphones, ce sont des utilitaires photos qui vous permettent de gérer vos photos. Les souvenirs sont arrivés il y a maintenant un an et demi, 2 ans. Ça marche plutôt bien. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit une expérience très sociale autour de ça. Puisque si je vous demande, par exemple, sur le souvenir que vous avez reçu hier ou avant-hier ou la semaine dernière, avez-vous partagé ce souvenir avec les personnes ?
Ça dépend, ça peut arriver.
Ça vous est arrivé. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous permettre de partager ce souvenir de façon vachement automatique. En plus, ce qui va arriver très prochainement dans l'application, c'est que vous pourrez vous répondre à la personne qui vous a envoyé un souvenir avec vos propres photos du même moment. Donc en fait, dans Zyl, ce qu'on fait de mieux que les autres, c'est qu'on enrichit les souvenirs, votre souvenir, qui est aussi le souvenir d'un proche, d'un parent, d'un ami. Et in fine, dans Zyl, vous aurez tous vos souvenirs regroupés au même endroit.
Le coach.
Mais alors, comment vous les trouvez, ces souvenirs ? Parce que finalement, l'enjeu, c'est quand même ça. C'est de dire, moi, si vous me promettez du bonheur, je veux bien, mais il va falloir tenir cette promesse. Donc, c'est quoi derrière ?
Bonne question. Derrière, on a travaillé sur des algorithmes très puissants de reconnaissance d'images. Notamment, on fait du machine learning, donc de l'intelligence artificielle. Et donc, on a entraîné nos modèles de deep learning à reconnaître ce qui est une photo émotionnellement forte.
Donc l'IA va directement, elle est embarquée sur notre smartphone.
Exactement, elle est embarquée sur votre smartphone. Tous les calculs, toute l'analyse des photos est faite directement sur votre smartphone. Rien n'est envoyé côté serveur. On est vraiment attaché à respecter votre vie privée, ce que ne font pas forcément les autres qu'on a pu citer précédemment. Nous, on est vraiment attaché à ça. Et donc derrière, l'IA va effectivement aller noter, comme le ferait un prof avec une petite copie, va aller noter vos photos et dire celle-ci, d'un point de vue émotionnel, elle est très forte.
Mais quoi ? C'est quoi le point de vue émotionnel ?
Alors ça va dépendre de chacun.
C'est la taille du sourire.
Par exemple, le sourire, des yeux qui sont ouverts, est-ce qu'il y a un coucher de soleil ? Est-ce que la photo a été prise en intérieur, en extérieur, chez vous, loin de chez vous, en voyage ? Est-ce qu'il y a des objets sur les photos ? Des bouteilles, des verres de vin, un gâteau de mariage. Tout ce qu'on veut, déguisements.
Vous avez déposé des brevets pour
ça ? On a déposé 3 brevets aux États-Unis.
Ouais,
on a protégé la technologie, elle est unique au monde. Dans le sens où nous, on détecte l'émotion sur les photos et non pas leur beauté esthétique, ce que font tous les autres, justement. Et donc, notre ambition, c'est de créer le réseau social de demain qui, finalement, va vous permettre de gérer ces 20 000, 30 000, 60 000, 100 000, 300 000 photos que vous allez prendre au cours de votre vie. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Et nous, on veut que Zyl soit l'endroit où vos souvenirs vont exister, vont être partagés, vont revivre avec vous et avec vos proches pour qu'en fait, d'une certaine façon, vous existiez.
Vous avez vu que moi, j'étais encore à l'époque du carton avec mes photos. Vous pouvez faire quelque chose pour ça aussi, C'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler, récupérer les vieux clichés, les remettre, les diaporamas, tout ça.
Alors, on y a pensé, en fait, clairement non. On y a pensé, c'est un sujet pour beaucoup de personnes.
Il faut d'abord le numériser.
Voilà, il faut le numériser. Voilà, nous, on n'est pas un service de numérisation. Ce que nous, on veut faire, c'est une fois que la photo, elle est sur l'application, sur Zeal, là, on sait quoi faire pour vous la faire revoir et vous donner envie de la partager avec vos proches.
Alors, Zeal, c'est important de dire que voilà, c'est un peu anglais, mais aussi parce que vous êtes téléchargé dans plus de 75 pays. Hein.
Tout à fait.
Pas qu'en France.
Non, à date, on a été téléchargé dans 75 pays, beaucoup de fois. Et puis surtout, ce qui marque notre vraie différence avec beaucoup d'apps, vous savez qu'il y a beaucoup d'applications mobiles aujourd'hui qui se lancent gratuites autour de la photo, c'est qu'on a, on pense qu'on a craqué un sujet, c'est-à-dire que les gens reviennent énormément sur l'application. On a une rétention très forte et les gens viennent autant chez nous que chez Snap, par exemple.
Ça s'appelle Zeal, Zest Your Life, c'est ça?
Tout à fait.
Fournisseur officiel de bonheur. Exactement. Grâce à vos photos. Merci. Bravo. D'être venu nous en parler.
Merci
aujourd'hui.
Merci.
Sur Europe 1. Il est midi 58.
Europe 1.
Vous restez avec nous, on vous attend. 39-21, on va construire la maison de demain ensemble. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous le savez, on essaie de construire ensemble le monde de demain. Et quand on parle de construire, justement, ce sont des bâtisseurs que nous avons à nos côtés aujourd'hui. À commencer par vous, Étienne Guay, bonjour.
Bonjour, merci.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Brick Technique Concept. Alors, depuis 2012, à Grolet, vous avez élaboré un processus de production qui se base sur la terre de déblai notamment. Et avec ce matériau dont, en général, personne ne veut vraiment, vous avez, vous, élaboré des briques en terre crue. Racontez-moi comment vous est venue cette idée-là.
On va dire que ça s'est venu naturellement autour d'un chantier que j'ai suivi, une formation plus précisément autour de l'architecture en terre crue. Et la première étape a été de fabriquer des matériaux à partir d'un tas de terre. Et c'est vrai qu'il y a eu un côté magique, un déclic par rapport au fait de voir une terre se former en briques.
Qu'on comprenne bien, vous agglomérez en fait de la terre que vous compressez, c'est ça?
Oui, tout à fait. Le procédé utilise une force de compactage, là en l'occurrence hydraulique. On comprime de la terre dans un moule et on arrive à extraire après un matériau qui se tient, qui est aggloméré, qui a un bon niveau cohésif et qui s'améliore avec le temps.
Ça veut dire que ce n'est pas friable, qu'il n'y a pas trop d'humidité à l'intérieur?
Il y a de l'humidité obligatoirement pour compresser. Par contre, cette humidité va partir après au séchage. Et pour ce qui est du côté friabilité, on va dire que c'est un matériau un petit peu plus fragile que ce qu'on a l'habitude de manipuler dans le bâtiment. Mais par contre, une fois que c'est maçonné, c'est un matériau qui est tout à fait résistant et nos ancêtres l'utilisaient et ne se posaient pas la question.
Dites-moi, ces matériaux-là, justement, si vous ne les réutilisiez pas, ils iraient où?
Aujourd'hui, on va dire que toutes ces terres de déblai partent dans des filières de recyclage, entre guillemets. C'est beaucoup stocké, en fait, hein, et sur des terrains, et ça s'amoncelle. Après, il y a bien un petit peu de terre qui est réutilisée en voirie, dans d'autres procédés, mais pour autant, c'est une des ressources les plus inexploitées qu'on ait et qui s'accumule.
Ce concept, vous avez commencé à travailler dessus en 2010. Vous n'étiez pas du tout là-dedans au départ, vous étiez dans l'aéronautique.
Hein, oui, tout à fait, j'étais dessinateur industriel.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
On va dire que ça a été plus un éveil éthique, à la fois envie de contribuer à quelque chose de plus grand, de ne pas contribuer justement à une activité polluante, mais bien d'améliorer les conditions et aussi de mettre en place un écosystème de management, de humain, autour d'une activité durable.
C'est vrai que le secteur du bâtiment, Elisabeth, semble enfin prendre à bras-le-corps la question liée à l'environnement.
Mais oui, et puis surtout, ils n'ont pas trop le choix. Hein. Ils sont partis d'un constat. D'abord, le secteur résidentiel, c'est-à-dire tout ce qui concerne la construction, l'énergie, l'équipement lié au logement, c'est le deuxième poste d'émission de CO2 en France derrière le transport. Donc, il faut réagir. Donc, ils se sont dit, on va agir sur trois leviers. Hein, quand je dis « ils », c'est le BTP, pour réduire l'empreinte carbone. Alors, il faut améliorer l'efficacité énergétique de ce qui existe déjà, des bâtiments qui sont déjà en place. Il va falloir construire de façon plus écologique, et ça, avec vous, ça fait partie des solutions possibles. Et enfin, 70% des déchets des chantiers devront être réutilisés à partir de 2020. Et il y a énormément d'entreprises qui sont déjà en train de travailler là-dessus.
Finalement, vous alliez aujourd'hui, et vous l'avez dit, le savoir-faire des anciens et les nouvelles technologies, la brique en terre, les aspirations aussi d'une société qui a envie d'autre chose.
Oui, tout à fait. On va dire qu'on voit assister dans le système, enfin, dans la fonction de consommation, vraiment une mutation. Les clients veulent autre chose. Et surtout, ils ne regardent plus les bâtiments comme on va dire, une carcasse, mais comme un besoin qui doit répondre aux usagers. Donc, comme vous le disiez, le côté thermique, mais aussi le confort d'été, fait partie des actions qu'il faut mettre en place. Et comme vous dites, le bâtiment n'a plus le choix.
Que dit notre coach de cette initiative ?
Plein de choses. J'ai une première, une question quand même. C'est, vous dites, nos anciens l'ont fait pendant des siècles. Mais finalement, vous n'avez pas peur de pas amener... C'est moderne ce que vous faites. Pourquoi vous n'allez pas vers le... Qu'est-ce qui finalement fait que les gens d'aujourd'hui peuvent le vouloir et peuvent avoir envie d'utiliser ce matériau pour construire leur maison ?
On va dire que c'est un matériau qui est vraiment moderne. Il y a un côté matérialité qui est assez exceptionnel. Et puis surtout, les caractéristiques de ce matériau sont vraiment nombreuses. Ça, comme je vous disais, ça participe au confort thermique. C'est également acoustique. Ça stocke de l'eau, ça la restitue. Donc c'est vrai que pour plein de raisons, on va dire technique, c'est un matériau exceptionnel. Et pour une raison, on va dire plutôt humaine, c'est quelque chose qui est très chaleureux. Quand on rentre dans une maison en terre, il faut en avoir fait l'expérience, le confort n'est pas du tout le même.
Et puis avec vous, on n'a même plus besoin de faire appel à une climatisation, par exemple, pendant l'été. Tout est... Non mais on garde, il y a une température ambiante qui est exceptionnelle.
Oui, on va dire que ce matériau permettrait d'éviter des consommations électriques d'été pour réduire la température, à condition que le bâtiment soit quand même bien conçu. La terre ne répondra pas à tous les maux du bâtiment. Mais une conception aisée avec ce matériau, effectivement, amène de bonnes performances.
C'est commercialisé depuis 2012. Vous faites entre 70 et 80 000 briques par an, c'est ça ?
Oui, tout à fait. On va dire que pour le moment, ça reste un peu petit.
Ça reste petit. Qu'est-ce qui vous permettrait aujourd'hui de vous développer ? Qu'est-ce qui vous manque pour que on puisse avoir des maisons en briques de terre crue un petit peu partout en France ?
On va dire qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est une baisse du coût du matériau, majoritairement, et une meilleure connaissance du matériau des usagers ou des maîtres d'œuvre. Et c'est vrai que tout ça va se mettre en place. Là, il y a de beaux chantiers qui arrivent, qui vont permettre de démocratiser ce matériau.
Vous avez construit du côté de Cornebarieux, dans la région de Toulouse.
Tout à fait. Et si tout va bien, ça devrait se recommencer exactement dans la même zone, et même en région bordelaise, où il y a des gros projets qui sont portés par des promoteurs.
Christophe ?
Non, moi j'avais un peu la même question. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui que ça se développe 10 fois plus vite ? Parce que finalement, 80 000 briques, c'est beaucoup. Puis en même temps, il faut combien de briques pour une maison, tiens, au passage ?
Il en faut à peu près. Enfin, si on fait tout en terre, il en faut 15 000.
D'accord.
Pour une maison de taille moyenne.
Elisabeth, on parlait justement de cette technique ancestrale. Vous nous en dites un petit peu plus ?
Mais oui, parce que ça a été une technique utilisée depuis les temps les plus reculés pour la construction. Là, la terre crue revient aussi en partie grâce à vous. Parce que, vous l'avez dit, ça nécessite beaucoup moins d'énergie pour la fabrication, pour sa fabrication que la chaux. Les briques cuites ou le ciment, il y a très peu d'émissions de CO2. Elles ne génèrent pas de déchets. Pas de déchets. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un immeuble à Lyon qui a été construit à base de terre crue. Hein. Il paraît qu'il se distingue par un bel ocre rouge au milieu des gammes de gris que l'on a l'habitude de voir dans les bâtiments voisins. Et donc, c'est cette couleur naturelle du pisé, cette terre crue compactée qu'on utilisait énormément dans la région Rhône-Alpes avant de sombrer dans l'oubli.
Aujourd'hui, votre société, elle existe depuis mai de l'année dernière, et vous avez, ça y est, enfin embauché votre premier salarié.
Alors j'ai embauché mon premier salarié en début d'année, et là aujourd'hui nous sommes 5.
5.
Et on va dire que le défi pour l'année à venir et les 2 ans, c'est d'arriver vers notre première levée de fonds. Là normalement on passe en SAS d'ici fin de l'année, avec pour objectif de continuer à faire grossir l'activité et surtout intégrer l'autre partie de l'activité, c'est-à-dire devenir équipementier, puisque la machine qu'on utilise aujourd'hui, c'est une machine qu'on a conçue en interne, hein, et donc de pouvoir la proposer justement pour que l'initiative ne soit plus à rayon national, mais bien régional et départemental, avec d'autres acteurs qui pourraient s'emparer du procédé.
Mais ça veut dire que on pourrait fabriquer les briques sur le chantier ?
Tout à fait. C'est l'objectif de cette nouvelle unité de production qui est accompagnée par l'ADEME et la région Occitanie, qui va me permettre de pouvoir proposer un outil portable qui va permettre de fabriquer les briques sur place et donc de réduire le bilan carbone encore de l'amener de matériaux extérieurs et de l'évacuation de déblais, tout simplement les transformant sur place.
Et la suite, c'est aussi de faire d'autres produits. On va en parler ensemble dans quelques minutes. À tout de suite. Il est 13h20. Et vous allez voir que la terre, décidément, mène à tout, y compris au ciment vert. C'est ce que fait notre prochaine invitée. À tout de suite. La France bouge, c'est jusqu'à 14h et le dossier du jour est consacré aux matériaux innovants pour faire construire sa maison. Vous êtes en plein chantier, faites-vous attention aux matériaux que vous utilisez. Vous avez des questions pour nos professionnels, appelez-nous au 39 21, 50 centimes la minute, ou écrivez-nous via Twitter, @Europe1Raphaël.
Figurez-vous, Céline, qu'il y a en France 80% des bâtiments construits en béton. Or, saviez-vous que l'industrie du ciment est, et Elisabeth rappelait les chiffres tout à l'heure, l'une de celles qui émet le plus de CO2. Il est donc urgent d'agir aussi dans ce domaine-là. C'est ce que vous faites, Julien Blanchard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous dirigez Hoffmann Green Cement Technology. Et alors, je disais tout à l'heure que finalement, la brique aussi avait une importance dans votre histoire, parce que c'est en reprenant au départ une entreprise familiale en Vendée que tout a commencé pour vous. Il se trouve que c'était une entreprise de briques en terre.
Oui, terre cuite. Effectivement. À l'époque, j'ai repris en fait une société en Vendée qui fabriquait des briques en terre cuite, quelques briques en terre crue également. Mais ça m'a fait évoluer vers le ciment décarboné à travers la société Hoffmann Green qui est implantée également en Vendée.
Alors, tout est allé assez vite hein, parce que vous avez cette entreprise, vous travaillez de l'argile, vous réalisez Argilus en 2010 et puis très vite vous faites des rencontres.
Oui.
Et vous vous dites qu'il faut faire évoluer les procédés.
Oui, en 2014 en fait, je rencontre mon associé David Hoffmann qui me présente ses premiers travaux scientifiques.
Parce qu'il est chimiste.
Parce qu'il est ingénieur chimiste, David, depuis une vingtaine d'années. Et notre aventure en fait a démarré en 2014 et nous avons créé notre première entreprise en 2015.
Donc lui a envie de faire des ciments nouvelle génération, c'est
David
ça l'idée.
David avait beaucoup travaillé dans le domaine des géopolymères et de l'activation alcaline, qui n'est pas la même voie scientifique que le ciment traditionnel, hein, le ciment Portland, qui est lui en fait basé sur l'activation cristalline. Et il a travaillé sur trois technologies différentes que l'on a brevetées depuis et qui nous permettent aujourd'hui de produire ces nouveaux ciments.
Alors, l'aventure commence en 2015, pour vous, ensemble en tout cas. Et qu'est-ce que vous mettez dans ce nouveau ciment? Comment est-ce qu'il devient vert? Pourquoi est-ce qu'on dit ciment vert?
Alors, ce sont des nouveaux ciments parce que ces ciments ne sont pas produits avec du clinker. Pour fabriquer du clinker, hein, les cimentiers traditionnels en fait, cuisent à très haute température du calcaire, à 1450 degrés pendant 18 heures. Nous supprimons en fait cette étape-là. Nous avons un process à froid et nous fabriquons nos ciments à partir de coproduits issus de l'industrie. Alors ces coproduits, c'est quoi? Ce sont des déchets issus de l'industrie, comme des bouts d'argile, des laitiers de hauts fourneaux ou des gypses. Et en fait, ensuite, nous venons activer ces coproduits pour en faire des nouveaux ciments.
Le ciment vert, Elisabeth, ça s'inscrit dans un courant mondial
oui,
aujourd'hui.
Parce que ça a commencé en 2014 en Australie.
Hein. Oui.
Il y a eu l'Australien Wagner qui a utilisé son béton vert pour l'aéroport de Brisbane.
De Brisbane, et, effectivement.
Et, mais ça s'est pas trop développé après ça.
Alors, ce n'est pas issu vraiment des mêmes techniques hein, que chez Hoffmann Green.
Où elle est unique.
Voilà, nous sommes sur des technologies qui sont uniques. Wagner, en fait, avait démarré une première expérience donc en Australie sur un beau chantier. Et nous arrivons vraiment avec trois nouvelles technologies issues de coproduits de l'industrie pour faire ces nouveaux ciments qui sont en poudre à l'identique d'un ciment traditionnel. Et ça permet également de réduire les émissions de CO2 par 5.
Alors justement, une tonne de ciment aujourd'hui, c'est combien d'émissions
Alors,
de CO2?
Une tonne de ciment traditionnel, le ciment Portland, le ciment gris, c'est 866 kg de CO2 et une tonne de ciment Hoffmann, c'est 172 kg de CO2.
Cette révolution.
Divisons par 5 les émissions de CO2.
On divise par 5, on multiplie côté prix, pas par 5, je suppose.
Non.
Mais c'est
non,
une
non.
révolution qui coûte cher.
Alors, non, parce que nous avons un impact prix assez faible. On cite souvent un exemple, un immeuble en béton traditionnel et un immeuble en béton Hoffmann, tout corps d'État confondu, il y a uniquement 3% de différence.
Le coach, Christophe?
Moi, j'ai juste deux questions qui me viennent à l'esprit. J'ai commencé quand même par une un peu simple. C'est bien finalement, compte tenu de ce que vous me dites là, comment ça se fait que vous n'envahissiez pas le marché, j'ai envie de dire?
Alors, c'est ce que nous sommes en train d'organiser, je dirais. Nous sommes en cours d'introduction en bourse sur Euronext Growth Paris depuis 10 jours. La période de souscription est ouverte, d'ailleurs. Nous allons lever, en fait, plusieurs dizaines de millions d'euros pour construire deux nouvelles usines, une en Vendée, sur le site actuel où nous sommes, et une autre à Paris, dans le nord de Paris, pour atteindre une capacité de production en 2024 de 550 000 tonnes de ciment, soit environ 3% du marché français. Le ciment français, hein, à l'échelle nationale, c'est 18 millions de tonnes.
Et comment ils vous regardent comment est-ce que les gros, que je n'aimerais pas là, ils vous voient comment finalement? Vous êtes un ovni, vous êtes un concurrent, vous êtes
un partenaire?
Un partenaire.
Alors,
potentiellement.
Nous sommes en fait très regardés par les cimentiers traditionnels, bien entendu, parce que nous amenons trois nouvelles technologies, mais aussi un process de production unique en soi. Nous supprimons la partie cuisson en fait pour fabriquer ces nouveaux ciments. Donc ils nous observent de près, mais nous sommes confrères.
On reste ensemble et on va continuer à parler de cette maison de demain sur Europe 1. Il est 13h28.
Europe 1.
Et si le numérique était aussi un atout pour construire, c'est ce que fait X3E pour monter des murs en 3D. A tout de suite. Les matériaux innovants pour construire sa maison sont à l'honneur dans La France Bouge. Vous avez des questions pour nos invités, appelez-nous au 3921. Vous pouvez également nous écrire via Twitter @ Europe 1 Raphaël. La maison de demain sera, Céline, plus écologique, avec des matériaux innovants qui se veulent aussi plus propres, mais elle sera aussi plus moderne. La bétonnière, la gamate, la truelle, vous connaissez évidemment.
Évidemment, je
bon,
connais.
Oui. Eh bien, ne seront pas forcément, ce ne seront pas forcément les outils du maçon de demain. Bonjour Alban Mallet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de X3E. Vous avez créé une société qui fait de l'impression 3D pour la construction. Racontez-moi comment vous est venue cette idée folle.
Exactement. Alors nous, on est la grande partie de la société, on est de formation d'architecte. Et on a développé, quand on travaillait à l'école, on a commencé à faire des formes complexes, avec vraiment une envie de changer la construction, d'apporter plein de nouvelles choses.
Vous en aviez marre d'avoir des maisons carrées ou...
Exactement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de système constructif qui permettait de faire ces formes-là. Et on était obligé de revenir sur des formes simples, où l'industrie avait optimisé pendant des années, justement, le prémur, la dalle, ces choses-là. Et on s'est dit, mais il faut qu'on crée un outil qui permette de faire ces formes-là. Et c'est là où on a travaillé pour développer cet outil d'impression 3D, pour faire des formes complexes qui s'adaptaient aux besoins des architectes et à cette volonté vraiment de faire du sur-mesure.
Donc vous passez vos années de fin d'études à élaborer le projet. Ça démarre en 2016. Qu'est-ce qui se passe en 2016?
Il se passe qu'on prend 30 mètres carrés dans une petite usine de peinture.
À 14, hein, 14 associés
et
au départ.
14 associés, exactement. Et là, on commence à vraiment travailler sur le béton, sur la machine, sur tout ça. Et petit à petit, en fait, on commence vraiment à avoir des intérêts des constructeurs, des préfabricants, des architectes. Et on commence à grossir, puis après on prend tout l'atelier de peinture. Puis là maintenant on est à Rungis avec 1000 m2 et on commence à avoir notre outil qui est devenu industriel, où on peut produire en grande quantité pour plein de projets différents et faire du sur-mesure à bas coût. Et c'est là où c'est intéressant.
Vous dites sur-mesure à bas coût, c'est-à-dire vous êtes beaucoup moins cher qu'un système lambda?
On est moins cher que du sur-mesure.
On est moins cher que du sur-mesure.
Toujours plus cher que du lambda.
Combien moins cher que du sur-mesure?
Alors, ça va dépendre de la complexité de la pièce. Mais par exemple, pour le premier poteau qu'on a fait à Aix-en-Provence, on était à moitié du prix d'un constructeur classique. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est vraiment quand le sur-mesure devient un besoin, on va vraiment pouvoir permettre aux architectes, aux constructeurs de s'adapter au milieu, diminuer l'empreinte environnementale parce que les formes vont être plus adaptées. C'est-à-dire que comme une feuille, par exemple, d'un arbre, elle prend le minimum de structure possible pour se structurer, pour être très résistante. Sauf qu'avant, on ne pouvait pas, on remplissait un mur de béton, parce qu'on ne pouvait pas faire toutes ces alvéoles. Et là, grâce à l'impression 3D, on va déposer exactement la bonne quantité de matière pour structurer les formes et qu'on utilise seulement ce dont on a besoin.
Oui, quand on voit les vidéos, effectivement, d'X3E, on s'aperçoit que le robot, le bras, va et vient comme ça, et qu'il y a finalement des pleins et des déliés. Il y a des trous à l'intérieur, on n'a pas une masse compacte.
Exactement. Je ne sais pas si vous avez peut-être cette image de l'os qui est poreux. Mmh. Et c'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire qu'on va mettre plus de vide que de plein. Mais quand on va mettre du béton, il va être exactement au bon endroit pour solidifier la structure. On va faire une sorte de tissage qui va justement faire des structures complexes, mais très résistantes.
Vous nous avez d'ailleurs amené une petite production pour qu'on voit à quoi ça ressemble, si vous nous suivez sur Europe1.fr. Et c'est effectivement la démonstration qu'on peut construire en rond, en l'occurrence, avec du béton. Christophe, une question, une remarque?
Moi, je voulais savoir, c'est les applications, c'est quoi finalement? C'est dans le monde professionnel? C'est la maison de monsieur tout le monde? Où est-ce qu'on va vous retrouver finalement demain?
Dans le professionnel. On vise alors donc les préfas, les constructeurs.
Les préfas.
Les préfabricateurs, c'est-à-dire les gens qui construisent les maisons, c'est-à-dire qui vont faire des prémurs, faire des pièces. Et nous, ce qu'on vise en fait, c'est vraiment travailler avec un architecte ou un constructeur et d'adapter une forme à un besoin. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une brique, par exemple, qu'on va vendre tout le temps la même brique, mais on va, pour chaque projet, s'intéresser à quel est le besoin. Qui va habiter dans cet espace? Comment l'environnement autour a besoin de telle ou telle forme pour s'adapter? On a fait des récifs artificiels au Cap d'Agde. On a fait un arbre à chauve-souris pour des vignes où il y avait besoin de remettre des chauves-souris pour pallier au problème des chiroptères, des petites chenilles qui se mettent sur... Donc il y a vraiment beaucoup d'applications possibles et le but c'est vraiment de s'adapter et c'est pas de
faire... Vous avez inventé donc une technologie qui permet de faire ça aujourd'hui, qui est brevetée aussi?
Qui est brevetée, qui est déposée en France et dans plein d'autres pays du monde. Et maintenant, voilà, c'est essayer d'aller toujours plus loin. Et il faut savoir que nous, on ne se base pas sur nos acquis. Notre but, c'est vraiment, on a un laboratoire de recherche aussi, et qu'on pousse énormément avec aussi les écoles, comme les Ponts et Chaussées ou d'autres en France. Et on va chercher toujours plus loin, parce qu'on ne veut pas s'arrêter à, on a notre technologie, maintenant on va la vendre. Le but, c'est d'aller plus loin pour résoudre plein de problèmes qu'on trouve dans la construction.
Elisabeth, pour résoudre justement plein de problèmes qu'on trouve dans la construction, ça signifie que ça va être possible de construire grâce à votre solution sur des zones très difficiles, très compliquées?
Exactement, on va faire des pièces sur mesure où en fait...
on ne construit pas d'habitude?
Qu'on ne construit pas d'habitude, ou alors on va devoir faire du sur mesure qui va être extrêmement cher, parce que le sur mesure c'est toujours cher, alors que nous, notre robot, qui fasse une brique carrée ou qui fasse une pièce alvéolée très complexe, on aura le même coût. Parce que la complexité, elle ne se paye pas avec un robot.
Je vous propose qu'on continue de débattre dans quelques instants en direct sur Europe 1. Il est 13h37.
Europe 1.
Et on attend vos questions, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge avec vous. Europe 1. La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin. Aujourd'hui, le dossier du jour est consacré aux matériaux innovants pour faire construire sa maison et vous nous en parlez avec vos invités.
Oui, Étienne Gay, fondateur et dirigeant de Brick Technique Concept, Julien Blanchard, président de la cimenterie verte Hoffmann, la première cimenterie verte en France, et Alban Mallet, président et cofondateur de X3, société qui fait de l'impression 3D pour la construction. Justement, j'ai une question pour vous Alban. Moi, je voulais savoir, vous nous avez dit qu'on fait de la recherche développement. On est en train de se développer à l'international. Comment est-ce que vous faites? Vous allez avec votre technique sur place, dans chaque pays, vous implanter pour être au plus près et choisir les bons matériaux?
Et alors, il y a plusieurs points. Premier point, on amène nos technologies, on va chercher un partenaire local. Parce qu'on n'est pas là pour devenir un constructeur ou un préfabricant. On est là pour les accompagner, leur proposer une technologie qui leur permette de répondre à un besoin local. Deuxième point, une fois qu'on a mis en place cette unité, donc fonctionnel, industriel, on va aller rechercher localement quels matériaux on peut utiliser. Et donc, on va chercher les cimenteries, par exemple, les géopolymères, par exemple, si on va près de la Vendée, ça va être intéressant. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est trouver le matériau local qui est utile pour la construction. Et on va mettre en place cette usine et on va laisser le constructeur ou le préfabricant vraiment développer son marché et on va l'aider à aller plus loin encore.
Elisabeth, vous avez trouvé, je crois, une maison recyclée avec des pneus.
Oui, c'est totalement inédit. C'est dans le Loiret. C'est un couple passionné de nature qui a fait ce pari fou. Construire une maison 100% recyclée, ça s'appelle Earthship. C'est un logement écolo fait de pneus et de matériaux de récupération. Là, donc, on est vraiment dans l'alternatif béton et PVC. Elle est composée de 650 pneus de bois, liège, béton, briques et parpaings usagés. Donc là, on est aussi dans le recyclage de déchets. En France, il y a comme ça une dizaine d'habitats là, elle va faire 67 mètres carrés. Elle aura normalement 3 chambres et elle recueillera l'eau de pluie et sera éclairée par un puits de lumière percé dans le toit végétalisé.
Julien Blanchard, vous pensez qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix? On est forcément en train de changer de modèle, y compris dans le bâtiment?
Alors, on n'a plus le choix, et dans le bâtiment également, je dirais, quand on prend les chiffres du ciment, le ciment, c'est 7% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Le ciment, c'est 4,6 milliards de tonnes produites par an à l'échelle mondiale. C'est environ 150 tonnes produites chaque seconde. D'accord ? Et quand on pense qu'une tonne de ciment traditionnel, c'est une tonne de CO2, ben, je vous laisse imaginer, en fin de compte, le niveau de pollution de cette matière. C'est aussi le matériau le plus consommé après l'eau à l'échelle mondiale, mais c'est le matériau que l'on a besoin tous au quotidien pour construire nos villes, pour faire les aménagements, pour construire nos maisons. Et donc, oui, il est impératif aujourd'hui d'agir dans ce domaine-là, dans le domaine de la construction, mais aussi dans le domaine des matériaux et des nouveaux matériaux.
Vous avez trouvé, Elisabeth, une autre entreprise qui fait du béton 100% recyclé.
Oui, alors vous avez une PME à Chartres qui s'appelle Poulard, qui innove avec un béton 100% recyclé. Eux, ce qu'ils font, c'est que quand un bâtiment est détruit, l'entreprise récupère du sable, des gravillons, si possible de bonne qualité, pour les transformer à nouveau en granulats. Et ensuite, elle fabrique un béton prêt à l'emploi.
Alors, j'utilise ces granulats pour faire des nouveaux bétons. Mmh. Mais avec du ciment traditionnel, donc fabriqué à base de clinker.
Donc, on est toujours dans l'ancien qui devient nouveau.
Oui.
Vous êtes
nous
sur
sommes
du
vraiment
nouveau,
sur trois technologies de rupture.
100% nouveau. 100%
voilà.
Nouveau.
Process à froid et sans cuisson.
Christophe ?
Oui, il y a un point qui me frappe, là, c'est que tous les trois, effectivement, vous êtes en train de changer les choses, mais vous êtes tous les trois dans une industrie qui nécessite beaucoup de moyens pour se développer. Et je voulais savoir un peu, donc au-delà de ceux que vous avez pu trouver aujourd'hui, entrer en bourse, investissement, comment est-ce que potentiellement les pouvoirs publics vous accompagnent et quelles sont finalement les possibilités de financement que vous avez en dehors des circuits classiques ?
Alors, si je peux me permettre, nous, dans le cas d'Hoffmann Green, on a été épaulés par des partenaires industriels privés, qui sont des groupes industriels vendéens notamment, mais aussi par l'État français à travers les programmes des investissements d'avenir français, le PIA, hein, c'est les services du gouvernement qui s'accompagnent qui accompagnent les projets innovants comme les nôtres. Vous avez aussi l'Europe à travers des programmes scientifiques européens comme le H2020 qui nous a accompagnés en 2017. Donc vous avez en fait un grand nombre d'acteurs qui sont prêts à accompagner des vrais projets innovants quand ils sont structurés et sérieux.
Même chose pour vous, Étienne. Vous nous parliez de l'ADEME tout à l'heure, notamment.
Oui, mais tout pas à que. Fait. On va dire qu'on a pu bénéficier d'un accompagnement déjà de BPI, là plus récemment de l'ADEME et de la région Occitanie. Et effectivement, on va aussi s'inscrire dans des accompagnements type PIA et même sur un projet un petit peu plus innovant, intégrant de la robotique en H2020, effectivement.
Alban, on voit aussi. Et derrière, il y a aussi un cimentier important qui vous a aidé, notamment en recherche et développement.
On a un cimentier, donc Lafarge, avec qui on a développé ce béton. On a un constructeur, Vinci, aussi, qui nous a épaulé très vite lors de notre constitution de la société pour aller trouver le marché. Et après, un peu pareil que les autres personnes, projet européen, deux projets européens. On a des projets avec Île-de-France, on a des projets avec la France. Donc,
c'est et puis pour 2020, il y a cinq maisons, un chantier qui est presque fait, là, ça y est.
Là, ça tourne, les usines, ils sont en train de faire les prototypes, toutes les certifications sont en train d'être faites. Donc oui, cinq maisons avec Plurial, Novalia, avec Vika aussi, un autre cimentier à qui on travaille pour développer.
Qui est en région Rhône-Alpes.
Exactement. Et donc tout ça, ça avance, ça avance.
Ça avance et ça avance bien pour construire la maison propre et innovante de demain. Vous nous enverrez évidemment des photos de ces cinq maisons et de vos futurs projets. Merci à tous les trois d'être venus sur Europe 1.
Merci à vous. Merci.
Il est 13h46. Europe 1. Elle existe depuis 1992 et est devenue incontournable dans le domaine de la livraison de bouquets. Flora Jet est l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Oui, et cette entreprise, figurez-vous que c'est Flora Jet. Bonjour Alexandre Arnaud.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous prenez au pied levé la place de Philippe Lefranc qui a créé Flora Jet en 1992, tout simplement parce qu'il est de l'autre côté de la vitre, on va dire les choses.
Tout à fait.
On est honnête, il a une extinction de voix. Alors ça tombe mal
arriver.
Pour faire de la radio, mais vous êtes là, ça fait 10 ans que vous travaillez avec lui.
Tout à fait.
C'est la femme de Philippe Lefranc finalement qui lui a mis cette idée de livraison de bouquets en tête parce que on est dans le Vaucluse, on est dans les années 80, et elle ouvre une boutique. Et très vite, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas de circuit de distribution.
Alors, quand on ouvre un magasin de fleurs, effectivement, on vend localement à tout un tas de clients de passage, de proximité. Mais on a aussi une grosse activité qui provient, on va dire, de la livraison à distance. Et à cette époque, la livraison à distance était un marché qui était assez phagocyté. Il y avait un acteur majeur qui avait effectivement une solution de livraison à distance. Et Philippe Lefranc s'est dit, mais cette solution, elle est à la fois intéressante, mais vraiment incomplète. Et l'idée, c'était de la simplifier, c'était d'amener quelque chose qui passe très rapidement, puisque le passage d'un ordre de livraison, c'est à peu près 30 minutes. Donc, il fallait amener un petit peu d'innovation et de technologie.
Oui, puis à l'époque, pardonnez-moi, j'ai quelques souvenirs, on faxait. Quand
exactement.
On voulait,
à l'époque,
quand on
faxait,
commander
on faisait
un bouquet.
Même une dictée, on faisait une dictée au fleuriste qui la prenait. Et donc, c'était très compliqué. Donc, Philippe Lefranc a innové dans le secteur, a inventé un système qui permettait de transmettre les ordres de livraison partout en France. Et s'est attelé après à développer un réseau de fleuristes qui est devenu le premier réseau de boutiques en France à ce jour, ouais, avec 5200 fleuristes.
Il a mis 4 ans finalement à construire ce réseau, véritable réseau un peu partout. C'est comme ça que Florajet est né.
C'est comme ça que Florajet est né. Alors Florajet, il a mis 4 ans à le développer, mais il continue à le développer au jour le jour. Aujourd'hui, c'est 45 collaborateurs et toutes les filiales qui travaillent autour de Florajet. Mais c'est vrai que ça a mis 4 ans pour structurer l'offre et permettre effectivement d'apporter quelque chose de concret sur le marché qui venait effectivement proposer une véritable innovation pour les fleuristes et pour les clients. Donc il y avait un gain de temps pour tout le monde. Et puis c'était aussi la possibilité d'amener des frais qui étaient fixes, puisqu'à cette époque, les frais étaient fluctuants en fonction des communes. Et là, l'idée a été d'amener des frais qui soient complètement transparents pour le client et fixes.
Comment est-ce que l'entreprise a vu arriver le tournant d'Internet comme une chance supplémentaire?
Une véritable chance, une belle opportunité. C'est d'ailleurs ce qu'on a saisi, puisque Florajet est devenu le premier site de livraison de fleurs sur Internet en termes de consultation. Aujourd'hui, on a une activité en ligne qui représente à peu près 60% du volume d'activité globale de l'entreprise et qui continue effectivement de croître, notamment avec aujourd'hui les utilisations du mobile.
Aujourd'hui, vous n'avez plus du tout de magasin physique.
Alors, on a toujours un laboratoire parce qu'il faut être connecté
dans le sud,
bien évidemment, toujours à proximité de notre siège social. Mais il faut être connecté. Mais on a une capacité aussi à être présent physiquement, puisqu'on se déplace, on va rencontrer nos fleuristes. Il y en a 5200 partout en France, donc vous imaginez qu'on est effectivement constamment sur la route et on va les rencontrer, essayer d'être au plus proche d'eux pour comprendre les problématiques et puis pour mieux les appréhender aussi.
Vous avez développé quelque chose d'assez novateur finalement. En 2018, vous avez créé une centrale d'achat participative.
Tout à fait.
Ça, c'était quelque chose d'important pour être en direct justement avec les producteurs, pour être le plus compétitif aussi.
En direct avec les producteurs, en direct avec les fleuristes. L'objectif, c'était effectivement de permettre de diminuer, on va dire, les intermédiaires sur le circuit d'achat, pour permettre aux fleuristes d'avoir une source d'approvisionnement qui soit encore plus pérenne et encore plus compétitive en termes de prix.
Que dit notre coach de l'aventure Florajet?
Je trouve que l'aventure, elle est fantastique. Puis j'aime beaucoup cet aspect. Je multiplie les canaux au fur et à mesure. Je les vois comme des opportunités. Et en fait, j'ai une question, justement. C'est-à-dire, le succès, il est là, il est indéniable. Et finalement, qu'est-ce qui fait que c'est vous qui êtes là et pas un autre? C'est quoi, j'allais dire, la patte Florajet qui a fait votre succès?
La patte Florajet, tout d'abord, j'ai envie de dire que c'est une entreprise qui demeure, avec même malgré son statut, une entreprise familiale dans son comportement et dans son management par Philippe Lefranc. C'est-à-dire qu'on est véritablement connecté, bien évidemment, à l'ensemble de nos collaborateurs, mais aussi aux fleuristes. C'est-à-dire que n'importe quel fleuriste aujourd'hui a le numéro de téléphone de Philippe Lefranc, ce qui est assez paradoxal, compte tenu du nombre de fleuristes qu'il y a dans le réseau. Mais ça nous permet effectivement d'être proches. Donc on est à la fois, je vais dire, proche, qu'on a un management d'innovation et un management qui nous permet de pouvoir répondre très rapidement à la problématique du marché. On est une société familiale aussi dans les capitaux. Ça veut dire qu'on n'a pas de fonds d'investissement derrière nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans l'obligation de rentabilité qui nous sont dictées par des investisseurs. Donc en fait, on réagit en fonction de ce qui nous semble être le plus cohérent et le plus intéressant pour nos partenaires fleuristes et pour nos clients. Puisque vous imaginez bien que quand on a une nécessité, une obligation de rentabilité, d'un bout à l'autre de la chaîne, celui qui paye toujours à la fin, c'est le client final. Et nous, ce qu'on veut, c'est rester compétitif, démocratique, et on veut garder ce qui est dans notre ADN, c'est ce côté proche des gens.
D'un mot, la concurrence, il y a de plus en plus de sites qui proposent des bouquets de fleurs coupées. Vous la voyez comment? C'est quelque chose qui permet l'émulation?
C'est différent. D'abord, ces concurrents-là, pour nous, ne sont pas véritablement des concurrents. D'un point de vue pratique, nous, aujourd'hui, on favorise l'artisan et l'artisanat local, la livraison de proximité. Aujourd'hui, vous avez des sites internet qui se créent, ce qu'on appelle des pure players, et leur métier, c'est effectivement de concevoir des bouquets dans des unités industrielles et de les livrer partout en France. Nous, notre métier, c'est de faire travailler les artisans locaux. Comme on est le premier réseau de fleuristes physiques, on a cette capacité à être présent, on va dire, en moins de 4 heures chez n'importe quel client partout en France. Donc notre avantage, c'est de continuer à faire progresser l'artisanat, de le soutenir. C'est également d'être capable de livrer en 4 heures, parce que quand vous êtes un pure player, vous livrez que le lendemain. Et dernière chose qui est très importante pour le consommateur, c'est qu'en fait, on n'a pas de rupture de la chaîne du froid. Donc, on livre des produits qui sont effectivement plus pérennes en termes de durée de vie.
C'est Florajet, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Alexandre Arnaud d'être
Merci
venu nous en parler. Merci à Christophe Chaud qui était notre coach aujourd'hui.
Elisabeth,
Céline, on se retrouve demain.
À demain.